Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde, il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et ayez toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi du commentaire, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point.
La Voix de l'Indonésie. Les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Les titres du journal pour ce soir sont: l'Indonésie est un pays respecté. La ministre indonésienne des Affaires étrangères a dit une réunion trilatérale a produit 4 accords conjoints. Le commandant de TNI a dit la patrouille coordonnée sera réglementée par les procédures d'opération normalisée ou SOP. L'ambassadeur Lutfi a transmis les lettres de créance au président du Venezuela. L'Indonésie accueillera la journée de la liberté de presse mondiale 2017. Et enfin, l'Indonésie et l'Arabie Saoudite renforcent le commerce jusqu'en 2030. Voici le journal complet. L'ancien président timorais José Ramos Horta, jeudi à Jakarta, a déclaré que l'Indonésie devenait un pays qui joue un rôle important dans la communauté mondiale aujourd'hui. Selon lui, le rôle important de l'Indonésie font l'Indonésie en tant que pays qui est respecté par d'autres pays.
Indonesians should feel proud of what you have achieved.
L'Indonésie devrait être fière que vous avez obtenu. L'Indonésie aujourd'hui est très respectée dans la région et le monde. Et le respect de la communauté internationale ne vient pas à cause de votre taille de 150 millions. Le respect de la communauté internationale, le prestige, la crédibilité, l'influence viennent de la façon de ce pays de gouverner, sa stabilité, la politique inclusive de la tolérance. Donc, à cet égard, l'Indonésie est très différente, très impressionnante. En outre, José Ramos Horta, qui a gagné le prix Nobel de la paix en 1996, a également conduit à la paix dans le monde. Il a dit que la paix peut être réalisée si la liberté est accordée à chaque citoyen. Il croit que les efforts de paix dans un pays ne peuvent être atteints à travers les efforts de la défense et de la croissance économique, mais avec les efforts d'harmonisation pour la paix et la liberté. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a affirmé que la réunion trilatérale tenue à Yogyakarta le jeudi avait produit 4 accords qui ont convenu par l'Indonésie, les Philippines et la Malaisie. Retno Marsudi a déclaré jeudi à Yogyakarta que 3 membres de l'ASEAN vont faire la patrouille marine coordonnée pour maintenir conjointement la sécurité de la zone. Ensuite, tous les pays participants dans la réunion ont également convenu de fournir immédiatement l'assistance quand ils avouent le navire qui est en danger ou a besoin d'aide. En outre, l'essence d'information dans une compréhension commune qui sera donnée à l'intelligence des pays afin de répondre à la situation d'urgence. La ministre a ajouté, l'Indonésie, les Philippines et la Malaisie concevront immédiatement le canal de communication spécial visant à accélérer la communication quand il y a des conditions qui menacent. Une déclaration commune des 3 pays, à savoir l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines concernant l'opération de patrouille coordonnée, sera réglementée plus attentivement effectivement par la rédaction des procédures d'opération normalisée SOP qui explique en détail sur les instructions tactiques dans la mise en œuvre des patrouilles coordonnées dans la zone d'opération. Cela a été dit par le commandant de TNI, le général TNI Gatot Nurmantio, dans la réunion trilatérale à Yogyakarta jeudi. À cette occasion, le commandant de TNI, le général Gatot Nurmantio, a remercié aux forces armées de la Malaisie et les Philippines sur la coopération militaire qui a bien passé jusqu'à présent, notamment les forces armées des Philippines, dans la libération des 10 otages des citoyens indonésiens. Il a affirmé que la réunion trilatérale qui a produit une déclaration commune sur le renforcement de la coopération des forces armées des trois pays et l'engagement à créer la sécurité et la stabilité à la frontière des trois pays. L'ambassadeur d'Indonésie au Venezuela, Muhammad Lutfi, a transmis les lettres de créance au président du Venezuela, Nicolas Maduro, au palais présidentiel à Caracas, mercredi. Sur la base de l'information écrite du chef du protocole et consulaire de l'ambassade d'Indonésie à Caracas au Venezuela, Fauzia Rahmah Mouin, l'ambassadeur de l'Indonésie a transmis les salutations chaleureuses du président Joko Widodo et tout le peuple de l'Indonésie et l'engagement à améliorer et à renforcer les relations bilatérales entre l'Indonésie et le Venezuela. Il a également exprimé sa gratitude au président Nicolas Maduro, qui lui avait donné le temps de présenter ses lettres de créance dans le temps de 10 jours après son arrivée au Venezuela. L'ambassadeur Lutfi espère que les relations bilatérales des deux pays peuvent être intensifiées dans divers domaines. L'ambassadeur permanente de la République d'Indonésie auprès de l'UNESCO, Hotmangaraja Panjaitan, a déclaré que le gouvernement indonésien se préparait à accueillir l'organisation de la Journée mondiale de la liberté de la presse, JMLP, en 2017. Il a été annoncé par Hotmangaraja Panjaitan à Helsinki, en Finlande, après avoir reçu un coup de sifflet du ministère de l'Éducation et de la Culture de la Finlande, Sanni Grahn-Laasonen, à la clôture de l'événement. Cela a été dit par Vika Arompi jeudi au bureau de représentation indonésien à l'UNESCO, Paris. Le coup de sifflet marque le transfert du poste de l'hôte de la Finlande à l'Indonésie. L'élection d'Indonésie d'accueillir JMLP rend cette activité pour la première fois aura lieu en Asie du Sud-Est dans les 15 dernières années. Pendant trois jours, du 2 au 4 mai 2016, Helsinki est devenu le lieu de la conférence JMLP qui a réuni plus de 1000 participants de tous les milieux, les journalistes, le gouvernement, les entreprises, les universités et les organismes non gouvernementaux. Cette activité a été assistée par le président de la Finlande, Sauli Niinisto, le premier ministre Juha Sipilä, et le directeur général de l'UNESCO, Irina Bokova. Les représentants de l'Indonésie à cet événement sont l'ambassadeur de la République d'Indonésie auprès de l'UNESCO, l'ambassadeur de l'Indonésie à Helsinki, Wiwi Setiawati Firman, et le président du Conseil de presse indonésien, Yosef Adi Prasetyo. JMLP à Helsinki en 2016 sur le thème « L'accès à l'information et des libertés fondamentales ». Le conseiller du ministre du Commerce de la République d'Indonésie, Jasa Arlinda, a déclaré que les hommes d'affaires de l'Arabie Saoudite étaient d'accord pour renforcer la coopération commerciale avec leur homologue indonésien jusqu'en 2030. La mission de l'achat d'efforts pour améliorer les relations bilatérales entre l'Indonésie et l'Arabie Saoudite dans divers secteurs, notamment le commerce, l'investissement, la construction et les travailleurs professionnels. Arlinda a déclaré vendredi à Jakarta que la vision de l'Arabie Saoudite 2030 ouvrirait les occasions d'affaires et renforcerait la coopération avec l'Indonésie. Les entrepreneurs de ce pays ont l'intention de coopérer dans plusieurs domaines, entre autres infirmières professionnelles, le produit pharmaceutique, le cosmétique et l'appareil médical, le textile et le produit textile. Arlinda demande aux entrepreneurs indonésiens d'améliorer la qualité de ses produits parce qu'il y a des critères assez stricts pour les produits commercialisés en Arabie Saoudite. Sajitor, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Sergem Longten, comme d'habitude, après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire et pour le titre, attaquer les uns des autres à Aleppo et les efforts visant à résoudre la guerre en Syrie. La guerre en Syrie tue beaucoup de gens. Le nombre des blessures et des pertes est indénombrable. Les bâtiments résidentiels et les installations publiques sont également détruits de plus en plus. Les combats acharnés à Aleppo, l'une des provinces en Syrie, se produisent en impliquant des armes lourdes. Les bâtiments avec la construction en béton ont été dévastés en raison d'armes lourdes sont lancées à partir de l'air. Les efforts de paix ne deviennent plus leur initiative au conflit en Syrie, mais ils impliquent de grands pays, à savoir les États-Unis et la Russie. Les deux pays tentent maintenant de trouver une solution pacifique. Relativement à l'aggravation de la situation à Aleppo, soit Russie ou les États-Unis ont convenu de prolonger le cessez-le-feu jusqu'à la province en conflit. Le secrétaire américain John Kerry a appelé toutes les parties à arrêter complètement les hostilités. Concernant le cessez-le-feu, les États-Unis considèrent qu'il y a le différent relatif au temps de la mise en œuvre du cessez-le-feu. Le secrétaire américain a affirmé que les parties impliquées dans le conflit ont accepté d'arrêter toutes les hostilités le 4 mai à minuit. Toutefois, selon Washington, le gouvernement syrien veut que le cessez-le-feu soit commencé le 5 mai à 1h. La question est quand la guerre en Syrie prendra fin? La réponse reste incertaine. De toute évidence, ce qui peut être dit est que le plus long de la guerre se produit, de plus en plus de victimes vont perdre. Les pertes de matières sont indénombrables. La tragédie humaine continuera. Dans le pays d'origine, la vie des gens est de plus en plus incertaine. Le flux de réfugiés vers les pays voisins peut continuer à augmenter. Il est une tragédie humaine qui doit être résolue. Dans de nombreux conflits, ce qui détermine la meilleure solution est ceux qui sont en conflit. La guerre n'est pas la solution pour toutes les différences et les hostilités. Les étrangers sont certainement nécessités en tant que médiateurs, mais la solution clé dépend des parties belligérantes. Le gouvernement et l'opposition doivent s'efforcer de trouver la meilleure solution avec cœur sincère. Chers amis, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Chers amis longtemps, bonsoir. Voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec Joseph Staline est devenu premier ministre de la Russie 6 mai 1941. Joseph Vissarionovitch Staline était le chef de l'Union soviétique, est un dictateur tyrannique, aussi connu comme le Man of Steel. Il a ordonné l'assassinat d'environ 30 millions d'habitants de la Russie et des pays voisins. Il est également connu comme les gens qui détestent la religion. Il est le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique après la mort de Lénine. Le principal rival de Staline était Léon Trotsky. Quand finalement tous les partis étaient sous l'emprise de Staline, Trotsky a été expulsé de l'Union soviétique et tué au Mexique vers 1940. Le camp de Goulag est l'un des témoins silencieux de la cruauté de Staline durant la Grande Terreur dans l'Union soviétique. Le 6 mai 2007, Nicolas Sarkozy est élu président de la République de France. Nicolas Sarkozy était élu président de la République de France le 6 mai 2007 après avoir battu Ségolène Royal du Parti socialiste. Sarkozy était élu président au second tour de l'élection de 2007. Le président Sarkozy est le président controversé. Il a publié des politiques qui ne sont pas populaires dans des domaines de travail, la fiscalité, les finances publiques et l'immigration. La présence de Sarkozy a réussi à briser la domination du Parti socialiste qui a régné pendant 2 élections de la France. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement, l'inauguration du tunnel sous la Manche le 6 mai 1994. Cela se produit depuis l'ouverture du tunnel sous la mer dans la Manche reliant la Grande-Bretagne et l'Europe. L'inauguration du tunnel a été faite par le président français François Mitterrand et la reine Elisabeth II. La construction du tunnel dure pendant environ 10 ans. En 1986, le groupe privé franco-britannique Eurotunnel obtient une concession de 50 ans pour explorer le tunnel. L'ouvrage coûtera près de 100 milliards de francs. Le premier projet de tunnel sous la Manche daté de 1751 avec les plans de l'ingénieur Nicolas Desmarais. Serviteur, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, voici donc la mise au point et encore le titre. L'Indonésie a accordé les patrouilles conjointes avec la Malaisie et les Philippines. L'Indonésie a convenu d'une coopération des patrouilles conjointes avec la Malaisie et les Philippines dans les eaux des frontières de trois pays. Comme l'a déclaré la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, après une réunion trilatérale entre l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines, tenue à Yogyakarta jeudi le 5 mai 2016. La ministre Retno a affirmé que la réunion avait généré une déclaration commune qui contient 4 accords. Premier, l'accord de faire la patrouille maritime conjointe coordonnée. Deuxième, fournir immédiatement une assistance s'il y a des citoyens ou des navires avec des difficultés dans l'eau. Troisième, établir un groupe de travail entre les trois pays pour partager des informations de renseignement afin de répondre rapidement aux menaces de sécurité. Et quatrième, convenu d'établir hotline de l'information pour répondre aux urgences. Selon la ministre Retno Marsudi, la réunion prouve le grand engagement de l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines pour garantir la paix, la stabilité et la sécurité dans la région. Elle a ajouté, la paix, la stabilité et la sécurité n'avaient pas seulement une contribution immédiate à la prospérité économique des trois pays, mais aussi pour l'ASEAN. Elle a expliqué que la réunion trilatérale reflétait l'engagement élevé de l'Indonésie, non seulement à l'égard des liens étroits entre la Malaisie et les Philippines, mais aussi dans un effort pour surmonter les divers défis. Madame Retno a également souligné l'importance de la mer de Sulu, Sulawesi, comme voie maritime économique stratégique qui ne se rend pas encore compte. Sur la base des données, chaque année, plus de 55 millions de mètres tonnes de produits et plus de 18 millions de personnes passent ces eaux. Selon elle, les trois pays s'inquiètent également de la hausse des enlèvements de civils innocents par des groupes armés. Par conséquent, les trois pays ont convenu de prendre des mesures immédiates pour assurer la sécurité des citoyens pour faire des activités dans la région. Elle a confirmé que sa partie avait appris de la communication et de la coopération intensive des trois pays pour libérer des 10 matelots indonésiens. Par conséquent, il est convenu de renforcer la coopération et la collaboration dans la gestion des problèmes de sécurité ainsi que la mise en œuvre des patrouilles coordonnées dans les eaux qui deviennent l'intérêt commun. Serviteur, c'était la mise au point pour ce soir. Et après, nous vous présentons le rappel des titres de l'actualité. L'ancien président timorais José Ramos Horta, jeudi à Jakarta, a déclaré que l'Indonésie devenait un pays qui joue un rôle important dans la communauté mondiale aujourd'hui. Selon lui, le rôle important de l'Indonésie font l'Indonésie en tant que pays qui est respecté par d'autres pays.
Indonesians should feel proud of what you have achieved.
L'Indonésie devrait être fière que vous avez obtenu. L'Indonésie aujourd'hui est très respectée dans la région et le monde. Et le respect de la communauté internationale ne vient pas à cause de votre taille de 150 millions. Le respect de la communauté internationale, le prestige, la crédibilité, l'influence viennent de la façon de ce pays de gouverner, sa stabilité, la politique inclusive de la tolérance. Donc, à cet égard, l'Indonésie est très différente, très impressionnante. En outre, José Ramos Horta, qui a gagné le prix Nobel de la paix en 1996, a également conduit à la paix dans le monde. Il a dit que la paix peut être réalisée si la liberté est accordée à chaque citoyen. Il croit que les efforts de paix dans un pays ne peuvent être atteints à travers les efforts de la défense et de la croissance économique, mais avec les efforts d'harmonisation pour la paix et la liberté. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a affirmé que la réunion trilatérale tenue à Yogyakarta le jeudi avait produit 4 accords qui ont convenu par l'Indonésie, les Philippines et la Malaisie. Retno Marsudi a déclaré jeudi à Yogyakarta que 3 membres de l'ASEAN vont faire la patrouille marine coordonnée pour maintenir conjointement la sécurité de la zone. Ensuite, tous les pays participants dans la réunion ont également convenu de fournir immédiatement l'assistance quand ils avouent le navire qui est en danger ou a besoin d'aide. En outre, l'échange d'informations dans une compréhension commune qui sera donnée à l'intelligence des pays afin de répondre à la situation d'urgence. La ministre a ajouté, l'Indonésie, les Philippines et la Malaisie concevront immédiatement le canal de communication spécial visant à accélérer la communication quand il y a des conditions qui menacent. Une déclaration commune des 3 pays, à savoir l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines concernant l'opération de patrouille coordonnée, sera réglementée plus attentivement par la rédaction des procédures d'opération normalisée SOP qui explique en détail sur les instructions tactiques dans la mise en œuvre des patrouilles coordonnées dans la zone d'opération. Cela a été dit par le commandant de TNI, le général TNI Gatot Nurmantio, dans la réunion trilatérale à Yogyakarta jeudi. À cette occasion, le commandant de TNI, le général Gatot Nurmantio, a remercié aux forces armées de la Malaisie et les Philippines sur la coopération militaire qui a bien passé jusqu'à présent, notamment les forces armées des Philippines, dans la libération des 10 otages des citoyens indonésiens. Il a affirmé que la réunion trilatérale qui a produit une déclaration commune sur le renforcement de la coopération des forces armées des 3 pays et l'engagement à créer la sécurité et la stabilité à la frontière des 3 pays. L'ambassadeur d'Indonésie au Venezuela, Muhammad Lutfi, a transmis les lettres de créance au président du Venezuela, Nicolas Maduro, au palais présidentiel à Caracas, mercredi. Sur la base de l'information écrite du chef du protocole et consulaire de l'ambassade d'Indonésie à Caracas au Venezuela, Fauziah Rahmah Muin, l'ambassadeur de l'Indonésie a transmis les salutations chaleureuses du président Joko Widodo et tout le peuple de l'Indonésie et l'engagement à améliorer et à renforcer les relations bilatérales entre l'Indonésie et le Venezuela. Il a également exprimé sa gratitude au président Nicolas Maduro, qui lui avait donné le temps de présenter ses lettres de créance dans le temps de 10 jours après son arrivée au Venezuela. L'ambassadeur Lutfi espère que les relations bilatérales des deux pays peuvent être intensifiées dans divers domaines. L'ambassadeur permanente de la République d'Indonésie auprès de l'UNESCO, Hot Mangaraja Panjaitan, a déclaré que le gouvernement indonésien se préparait à accueillir l'organisation de la Journée mondiale de la liberté de la presse, JMLP, en 2017. Il a été annoncé par Hot Mangaraja Panjaitan à Helsinki, en Finlande, après avoir reçu un coup de sifflet du ministère de l'Éducation et de la Culture de la Finlande, Sanni Grahn-Laasonen, à la clôture de l'événement. Cela a été dit par Vika Arompi jeudi au bureau de représentation indonésien à l'UNESCO, Paris. Le coup de sifflet marque le transfert du poste de l'hôte de la Finlande à l'Indonésie. L'élection d'Indonésie d'accueillir JMLP rend cette activité pour la première fois aura lieu en Asie du Sud-Est dans les 15 dernières années. Pendant trois jours, du 2 au 4 mai 2016, Helsinki est devenu le lieu de la conférence JMLP qui a réuni plus de 1000 participants de tous les milieux, les journalistes, le gouvernement, les entreprises, les universités et les organismes non gouvernementaux. Cette activité a été assistée par le président de la Finlande, Sauli Niinisto, le premier ministre Juha Sipilä, et le directeur général de l'UNESCO, Irina Bokova. Les représentants de l'Indonésie à cet événement sont l'ambassadeur de la République d'Indonésie auprès de l'UNESCO, l'ambassadeur de l'Indonésie à Helsinki, Wiwi Setiawati Firman, et le président du Conseil de presse indonésien, Yosef Adi Prasetyo. JMLP à Helsinki en 2016 sur le thème « L'accès à l'information et des libertés fondamentales ». Le conseiller du ministre du Commerce de la République d'Indonésie, Jasa Arlinda, a déclaré que les hommes d'affaires de l'Arabie Saoudite étaient d'accord pour renforcer la coopération commerciale avec leur homologue indonésien jusqu'en 2030. La mission de l'achat d'efforts pour améliorer les relations bilatérales entre l'Indonésie et l'Arabie Saoudite dans divers secteurs, notamment le commerce, l'investissement, la construction et les travailleurs professionnels. Arlinda a déclaré vendredi à Jakarta que la vision de l'Arabie Saoudite 2030 ouvrirait les occasions d'affaires et renforcerait la coopération avec l'Indonésie. Les entrepreneurs de ce pays ont l'intention de coopérer dans plusieurs domaines, entre autres infirmières professionnelles, le produit pharmaceutique, le cosmétique et l'appareil médical, le textile et le produit textile. Arlinda demande aux entrepreneurs indonésiens d'améliorer la qualité de ses produits parce qu'il y a des critères assez stricts pour les produits commercialisés en Arabie Saoudite. Sajitor, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, écoutez la rubrique culturelle et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous. Nous nous rencontrons de nouveau dans le programme Le Magazine Culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter le temple Gunung Kawi à Ubud, Bali. La montagne de Kawi ou le Gunung Kawi est l'un des patrimoines culturels et la destination touristique à Bali. Là-bas, il y a le temple de Gunung Kawi qui a été construit au 11e siècle. Gunung Kawi se situe près de Tegalalang, au nord-est d'Ubud, dans le village de Tampak Siring, Gianyar, Bali. Dans la montagne de Kawi, il y a distinct plus sculpté sur une falaise de roche à une hauteur de 7 mètres. Autrefois, ce temple a été utilisé pour adorer le roi Udayana. Ici, il y a trois groupes de temples tels que le groupe de 5 temples, le groupe de 4 temples et le groupe d'un temple. On ne sait pas encore sûrement la signification du nom de Gunung Kawi. Le sens du mot Kawi est gravé. Donc, il a été conclu que le sang de la montagne Kawi est le résultat de sculptures situées sur les falaises supérieures. La destination touristique de temple de Gunung Kawi a une valeur de l'histoire ancienne, qui a été découverte en 1910 et séparée par la rivière Pakerisan. Il y a donc deux rives. La rive orientale possède 5 monuments et la rive ouest possède 4 monuments. Pour y accéder, vous traversez rizières et rivières de vous offrir de formidables vues de Bali. Pour arriver au temple de Gunung Kawi, vous devez descendre les escaliers autant que 320. Cela est parce que l'emplacement du temple est situé dans la vallée de la rivière. Vous verrez le beau paysage, le lit incroyable. Après avoir arrivé dans la vallée de la rivière, vous verrez la montagne sculptée qui a une valeur historique. 320 marches pour arriver au temple de Gunung Kawi sont faites de roches encadrées par un mur de pierre. Dans le complexe du temple à l'ouest, est également équipé d'un bassin de baignade et indus. En dehors du complexe du temple, les touristes seront surpris par les murs de roches sculptées. Les temples sont construits dans le bassin pour le protéger de la menace de l'érosion. Pour le transport au temple de Gunung Kawi avec la distance d'environ 40 km de la ville de Denpasar et environ 1 heure. Cependant, de la ville de Gianyar, la distance est d'environ 21 km et il faut seulement environ 30 minutes. Il est mieux d'utiliser votre propre véhicule, car dans la zone d'attraction à Ubud, il est difficile à trouver le transport en commun. Le long du chemin, il y a des instructions pour aller au temple de Gunung Kawi. Vous pouvez également utiliser l'agence de voyage pour acheter le paquet de voyage au site touristique du temple de Gunung Kawi. Serviteurs, c'est le magazine culturel pour ce soir. Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs. Voici l'Indonésie en couleur et en pour titre. La célébration d'Isra et Mi'raj dans certaines régions indonésiennes. Serviteur, 27 Rajab est connu comme Isra et Mi'raj, l'un des grands jours de musulmans indonésiens célébrés chaque année. Exactement ce jour, vendredi le 6 mai 2016, le peuple indonésien de Sabang à Merauke célèbre Isra Mi'raj. Serviteur, ce batik est une région frontalière avec la Malaisie. Dans cette région, il y avait une tradition unique liée à Isra Mi'raj. Les fêtes d'Isra Mi'raj sont effectuées dans l'ordre à partir de l'extrémité du nord à l'extrémité du sud. Les gens apportent les gâteaux pour être stockés dans la mosquée. Ces gâteaux sont mangés ensemble par les invités après les activités de la commémoration d'Isra Mi'raj finies. Contrairement à la zone sabbatique, le village Malasari, la résidence de Bogor, organise la tradition de Marhabaan ou Marhabanan, dirigée par l'un des chefs religieux dans le village. Marhabaan est une activité de lire et de chanter Kashida et les poèmes qui contiennent la louange et l'histoire exemplaire du voyage historique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, emballé dans une série de paroles et de chansons ou nazom. Les villageois de Malasari font Marhabaan comme les traditions religieuses locales qui jusqu'à présent sont maintenues bien. Les Anses de Solo Java Central organisent un défilé du festival Hadra pour commémorer Isra et Miraj. Dans ce défilé, chaque groupe présente une variété de compétences du chant salawat ou verset à la gloire d'Allah, accompagné par la musique de rebana ou tambourin. Ils ne marchent pas seulement, certains participants animent la commémoration d'Isra Miraj en utilisant des chariots tirés par des chevaux et les voitures décorées. Même un nombre de participants utilisent les cyclopousses décoratives pour tourner autour de Solo. Avec le festival Hadra, les musulmans pourraient imiter le bon exemple et la personnalité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Serviteur, c'est différent avec la communauté Akwala Nord, le district de Tanah Merah, la résidence de Indragiri Ilir, en province de Riau. À propos du mois de Rajab dans le calendrier islamique, toutes les mosquées organisent en alternance les discours religieux par les chefs religieux locaux ou ceux invités de l'extérieur de la région de Kuala Nord. L'essence de toute la célébration ci-dessous est un sentiment d'amour, de se développer et de renforcer la foi des musulmans contre le Tout-Puissant et son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est plus important, cette tradition de célébration est utilisée comme un moyen de lien amical entre les musulmans. Chers auditrices et chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons la rubrique de distraction.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci à écouter La Voix d'Indonésie à Jakarta. Voici le magazine musical qui s'agit des musiques traditionnelles et pop de l'Indonésie. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse pop de dangdut de l'Indonésie qui s'appelle Iis Dahlia. Pour ouvrir notre rencontre, voici la première chanson d'Iis Dahlia intitulée Cinta Apalah Apalah. Bonne écoute. Serjitor, c'était la chanson d'Iis Dahlia intitulée Cinta Apalah Apalah. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@veui.ce.id et nous vous invitons également à rejoindre La Voix d'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiceindonesia. Iis Dahlia est née à Bongas, Indramayu, Java West, le 29 mai 1972. L'apparition d'Iis Dahlia était débutée en devenant l'invitée vedette dans le programme Le Nouveau Visage en 1995. Ensuite, elle a été demandée de chanter dans la station de télévision indonésienne. La performance d'Iis Dahlia a attiré l'attention de l'assistant producteur de la compagnie de disques Akurama Records. En peu de temps, Iis a signé le contrat pour 6 albums. Bon, serviteur, écoutons maintenant une chanson d'Iis Dahlia intitulée « Pourquoi ?». Bonne écoute. Chers amis de l'antenne, merci à vous d'être fidèles à notre antenne La Voix d'Indonésie à Jakarta. Vous êtes en train d'écouter des chansons de dangdut avec une chanteuse, Iis Dahlia. En 1987, Iis Dahlia a eu une autre occasion d'enregistrement de chanter les chansons chinoises qui ont été traduites en indonésienne. Maintenant, Iis est connue grâce aux chansons malaises de l'ancien temps de la génération Said Effendi et Mashabi, comme la chanson intitulée Seroja. Bon, Serge Tor, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons d'Iis Dahlia intitulées Parapluie Noire et Aller sans message. Bonne écoute et au revoir.
Kasih, apa kabar?
Baik.
Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut dari maafkan.
Bagai bencana.
c'est toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Dunia ini bagai tiada matahari. Kau pergi tanpa pesan, ku nanti tiada datang. Di mana kau kini? Di mana kau kini? Aku tiada berdaya lagi. Aduh, du, 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 du. Apakah kau tak sadar janji suci?
C'est la fin de notre émission. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta, Timil Ongs, Indonesia. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.